bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Léa Kadourou-Dadi, Pierre Moguiz, Daniel Morin, Albert Agou. Tout à l'heure, il y aura Tanguy Bassureau et nos invités, Firmin Richard et Alexa Malga. Mais on aurait pu également inviter Nadège Bosson-Diagne, Matta Gabin, Maïmouna Gay, Aïdara, Rachel Kahn, Sarah Martins, Marie-Philomène Nga, Sabine Pacora, Sonia Roland, Maga Jia, pardon, Silberfeld, Shirley Soignon, Assa Silla ou Karidja Touré et enfin France Zobda.
Ah, il est arrivé.
Oui.
Pardon. J'aurais dû m'entraîner un peu plus.
Parce qu'on ne connaît pas encore assez ces noms, c'est ces preuves, c'est cette preuve-là que, dont vous parlez, les filles. C'est que si
ou
on connaissait
je,
davantage ces comédiennes...
Je sais mal articuler aussi.
C'est un peu des deux, peut-être, mais...
Il faut rappeler cet orthophoniste.
C'est quand tu veux, c'est un ami client.
Jean-Dominique Bessner, j'avais rajouté. C'est vous, Aïssa Maïga, qui êtes à l'origine de ce livre manifeste. C'est comme ça que vous le baptisez dans une belle ouverture d'ailleurs de cet ouvrage. Des témoignages, 16 témoignages de comédiennes, productrices, actrices cinéma, théâtre, fiction, toute génération.
Confondu.
Oui, ça peut commencer par la gamine Firmin Richard en allant à une autre gamine de 21 ou 22 ans pour la cadette. 21 ans pour la cadette.
Assassina.
De toute cette bande, c'est vous qui avez eu cette idée. Elle est venue comment, l'idée? Tout est dans le titre, hein. Noir n'est pas mon métier. Ça veut dire déjà, c'est pas black que vous utilisez comme terme, c'est noir. Noir n'est pas un gros mot, on peut le dire, même si les enfants disent marron.
Enfants ont toujours raison.
Ben oui, c'est ça. Comment vous est venue cette idée?
C'est une idée qui a maturé depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis comédienne. Et puis, je me souviens, il y a longtemps, avec des copines, on disait, non, mais quand même, faudrait qu'on les note, faudrait qu'on écrive ça dans un bouquin. Mais on le disait toujours pour rigoler, parce que c'était juste une façon de dire que ce qu'on vivait souvent était absurde.
Qu'on les note, c'est les phrases que vous entendiez au casting, entre
autres. Les phrases qu'on entendait ou les situations qu'on pouvait vivre sur les castings, sur les tournages ou dans les rencontres avec des cinéastes. Et l'idée, elle a vraiment germé l'année dernière, quand j'ai écrit un texte, mais c'était juste un texte pour me soulager, et c'est le texte qui finalement est devenu le prologue du livre. Et quelques mois après avoir écrit ce texte, je me suis dit, bon bah qu'est-ce que je vais en faire, quoi, c'est un texte de quelques pages. Et puis une amie m'a dit, écoute, tu as écrit le début d'un livre. Alors là, j'ai eu très peur.
Le piège.
Et puis voilà, c'est ça. Et je me suis dit, c'est une bonne idée, et en même temps, je ne voulais pas que mon témoignage devienne d'une part anecdotique et qu'en plus on puisse me dire que c'était uniquement ma subjectivité qui était en jeu, que j'étais un peu parano,
voilà,
etc.
Voilà, paranoïa, c'est ça.
Voilà. Et donc j'ai invité mes camarades, j'ai choisi des femmes, certaines que je connaissais, d'autres dont j'admirais le travail sans les avoir jamais rencontrées. Et j'ai voulu m'en tenir à ça, même si évidemment ce qu'on raconte concerne aussi les hommes. C'est vrai que le fait de parler de femmes et de femmes qui ne sont pas blanches, qui sont noires, ça permet de parler de la diversité, de la parité et d'aborder finalement beaucoup de sujets.
Et aussi des agressions sexuelles, parce que.
Non, mais je dis ça avec un peu d'ironie, parce que c'est vrai qu'on a un florilège.
Mais j'en parle parce que je me suis demandé si le balance ton porc ou l'affaire Weinstein n'était pas aussi pour vous un moteur supplémentaire ou de l'eau encore plus au moulin en disant là vraiment il y a une libération de la parole, c'est le moment d'y aller.
Oui, en fait, je ne l'ai pas calculé de cette façon-là, mais je pense que j'ai absorbé l'air du temps et c'est vrai que j'ai aussi regarder toutes ces femmes aux États-Unis qui font partie d'un milieu ultra privilégié qui est le cinéma hollywoodien, un microcosme de chez microcosme, et en même temps j'ai admiré le courage qu'elles ont eu de raconter ce que les victimes en général taisent, ce que sont les abus sexuels. Et j'ai regardé ça avec beaucoup d'admiration et j'ai aussi observé la façon dont ça a été accueilli. C'est vrai que la parole de certaines femmes a été mise en doute et ça m'a révoltée.
Il y a un parallèle dans le bouquin entre les agressions sexuelles dénoncées et les discriminations que subissent ces actrices noires. C'est-à-dire que la réaction est la même, celle de la victime. Dans un premier temps, ne pas oser en parler, ne pas savoir à qui le dire, de crainte de ne plus avoir de travail.
Exactement.
Le mécanisme, en fait, il est somme toute assez proche.
Oui.
Et moi, j'ai été complètement sidérée par les témoignages que j'ai lus dans ce bouquin, des phrases que vous avez reçues, soit de façon a priori anodine, lors de casting. Firmine Richard, vous, votre moment le plus pénible de ce point de vue-là?
Je n'ai pas eu ce genre de phrase. J'avoue que bon, je suis arrivée il y a 30 ans et dans un autre contexte.
Vous travailliez avant, vous étiez...
Voilà, j'arrive, j'ai déjà un certain âge, j'arrive, je me retrouve à faire une entrée fracassante avec un premier rôle dans le cinéma français.
Dans Romuald des Juliettes.
Dans Romuald des Juliettes de Pauline Serreau avec Daniel Auteuil.
Immédiatement un premier rôle en plus.
Tout à fait. Ouais. Donc j'avoue que j'ai eu cette chance-là, mais c'est vrai que je me sentais concernée aussi. Parce que de toute façon, dans ce milieu, on apprend à ses dépens. Et quand je suis arrivée dans le milieu, c'est vrai que j'ai dû certainement faire rêver beaucoup de jeunes femmes. Je peux vous dire que les jeunes qui étaient avec moi dans ce film n'ont jamais travaillé. À part Sambou l'aîné, Sambou Tati, qui a travaillé deux, trois fois.
Les rôles de tes enfants.
Oui, ceux qui jouaient le rôle de mes enfants. Ces enfants-là, effectivement, les jeunes se reconnaissaient, ces enfants qui étaient dans le film. Et je suis sûre que des jeunes filles noires ont eu envie de travailler aussi. Je les ai fait rêver. Et voyant ce qui se passait et entendant ce que disent les jeunes-là, je dis que oui, la situation est telle que je me dois de parler pour...
Que ça n'arrive pas aux autres générations.
Voilà.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et ce qui est choquant, j'ai pas d'autres termes parce que c'est vraiment le cas quand on lit. Alors c'est encore une fois, c'est pas le bureau des plaintes. C'est fait avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'élégance et beaucoup de finesse. La manière dont ces comédiennes, productrices, actrices parlent, c'est aussi surtout pour un vivre ensemble, comme vous le dites d'ailleurs dans le prologue, et pour tendre la main en se disant il va falloir qu'un jour ça soit le cas pour les générations à venir. C'est même pas un cri de gueule sur leur situation là maintenant actuelle, parce qu'on a un sentiment que toutes ont tiré leur épingle du jeu et savent maintenant gérer, d'ailleurs, s'il faut aller ou pas dans une chambre d'hôtel pour lire une pièce de théâtre avec un producteur ou pas. Voilà, il y en a
si
qui...
Si c'est un hôtel confortable, il n'y a pas de mal.
Il y en a qui savent gérer.
Ça dépend du nombre d'étoiles.
Ouais. On est tellement d'accord.
Mais là-dessus, c'est vrai que les phrases de dire quand une comédienne se dit simplement en lisant un scénario, en lisant un script, s'il y a marqué une jeune fille entre dans la salle, sous-entendu, la jeune fille est forcément blanche. Sinon, il y aurait écrit une jeune fille noire entre dans la salle.
Ou Bamboula.
Ou alors elle a une démarche de gazelle, ou alors ce sont des rôles qui sont forcément infirmière, agent de la poste, prostituée, call girl, au mieux si on parle des étoilés. Voilà. Mais c'est-à-dire que c'est forcément soit objet d'un désir sexuel, soit une condition sociale qui est mis au banc de la société, ou alors dans des films qui se veulent le relief de la banlieue, point. Mais si on dit avocate, pourquoi on mettrait une comédienne noire? Il n'y a pas marqué avocate noire. Ça, c'est un mal français dans ce que je comprends et dans ce que je lis, puisque l'exemple est donné avec Will Smith dans Le Prince de Bel-Air. C'est un mal français.
Mais ce qui est assez frappant, c'est que la France est un pays métissé. Ça, c'est la grande différence avec l'Italie. Elle est beaucoup plus métissée que l'Allemagne, que tous ses voisins européens quasiment. Et
parce
en même temps,
passé de colon.
Elle a un passé colonial qui fait que, après les colonisations, il a fallu faire venir. Je vais pas refaire l'histoire, on la connaît.
On a eu besoin.
Mais voilà, la France a eu besoin d'une masse de
ça. Comme ça, parce qu'elle
a différentes vagues successives de main d'œuvre. Et donc aujourd'hui, nous sommes. Voilà, c'est un constat, c'est comme ça. Et comme dirait Fatou Diome, c'est irrémédiable. On va pas retourner en arrière. Nous, on est ici, notre pays, c'est la France, et on va faire avec ça. On va devoir tous faire ensemble. Et ce qui est assez frappant, c'est que ce vécu français n'est c'est comme s'il n'était pas assimilé dans les fictions, comme s'il n'était pas digéré. Il y a d'un côté la réalité sociale dans laquelle il y a des mélanges, et puis de l'autre côté la réalité de la télévision, la réalité du cinéma qui reste très hermétique, à quelques exceptions près.
Et les exemples
pas représentatifs. Est-ce que vous, les exemples que vous donnez, ce sont des exemples hérités? Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de regarder l'histoire, de se retourner un petit peu. Pas besoin d'être un chercheur hein, pour ça. Hein. Y a des ouvrages très simples, très agréables à lire, qui permettent juste de comprendre que ce sont des constructions historiques et sociales. Et pour moi, il est question vraiment de déconstruire ça pour essayer d'offrir un cinéma, un théâtre, une télévision qui soit un miroir de la société.
Alors, le seul regret que l'on pourrait avoir et qui aurait créé un buzz supplémentaire, c'est de mettre plus de noms de quel comédien, quel acteur, qui a dit quoi, à quel moment, parce que c'est que ça qui crée le buzz. Vous avez, enfin, et toute l'élégance de ne pas forcément balancer des noms pour ne pas montrer ou pointer oui. du doigt telle ou telle personne. Une comédienne qui se retrouve dans un rôle principal et les producteurs et le réalisateur et les diffuseurs finalement, alors que c'était pas prévu, accepte l'idée de dire que le comédien blanc rôle principal peut être amoureux d'une comédienne noire rôle principal, mais en l'occurrence sur l'affiche, eh ben il y aura que le comédien blanc et il y aura pas la comédienne noire.
Et c'est vous dessus. Qui disparaissez, Aïssa Maïga, c'est
oui.
votre histoire ça.
Alors c'est même pas que j'ai disparu, parce que bah, vous en avez... il aurait fallu que j'apparaisse.
Oui, c'est
en
ça.
Fait. En fait on disparaît.
Ah, bah, tout va bien là.
C'est une comédie romantique. On devrait avoir elle et lui oui. ou elle et elle, lui et lui sur l'affiche. Voilà. Et il s'avère que il n'y a que lui parce oui. qu'à l'époque on se dit le public n'est pas prêt.
Oui. Alors moi c'est un truc qui m'a toujours amusé et pincé en même temps. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, on m'a expliqué, mais ça, on me le disait clairement. Mmh. On ne peut pas te mettre sur l'affiche, même si tu as un rôle important, sinon le public ne suivra pas. Bon, t'as envie que le film marche. Hein, Aïssa, tu veux que le film marche, donc laisse-nous faire, donc cache-toi. Et en même temps, moi, je vivais dans une réalité, j'ai toujours vécu à Paris quasiment, et donc je voyais bien que quand j'apparaissais dans le métro, que j'entrais dans une boulangerie. Ou,
les gens
voilà.
couraient pas.
Ah non, il n'y avait pas d'émeute, les gens ne fuyaient pas en courant.
Et donc, on m'expliquait. Du vestimentaire, il y a eu quelques sorties, hasard.
Ça dépend des quartiers, tu veux dire.
C'est surtout au niveau capillaire hein, que j'ai pris des risques.
Mais pas hésiter à prendre des risques capillaires, Aïssa.
Non, mais attends, c'est trop. Finissez votre phrase parce oui. qu'on va en parler, ça aussi du choix de la coiffure cheveux, qui, d'un, ouais. qui d'un coup peut chambouler le regard du réalisateur. Donc finissez pardon. Ouais.
Et du coup j'étais très étonnée parce qu'à la fois j'étais spectatrice comme tout le monde et quand j'allumais ma télé ou que j'allais au cinéma je voyais plein de noirs. Mais tous ces noirs étaient américains, c'était Will Smith dans Le Prince de Bel-Air, le Cosby Show, c'était des shows qui cartonnaient. Mmh. Et nous qui étions comédiens français on nous disait ah non on peut pas vous mettre à l'antenne dans des rôles principaux à des heures de grande écoute parce que ça fait fuir le public. Donc je ne comprenais pas. C'était pour moi tellement contradictoire, tellement peu cohérent que ça ne pouvait que me révolter. Et donc pour revenir à l'histoire des cheveux que vous racontiez, c'est vrai que c'est... Alors c'est une des manifestations des résistances en fait. C'est vrai qu'on s'est toutes retrouvées, quasiment toutes dans des rôles où il a fallu construire un personnage et puis on a proposé parfois d'avoir les cheveux naturels, crépus, etc. Et on nous expliquait que c'était pas possible. Parfois de façon hyper franche, et parfois de façon très 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 détournée le cheveu afro était trop, je sais pas, marquait trop notre différence physique peut-être, je ne sais pas.
C'est ça, et puis peut-être poser des problèmes au dire faute aussi pour faire les contres en se demandant est-ce que ça va faire de l'ombre ou pas sur le visage et de l'autre comédien.
Ça c'est peut-être technique en fait, vous avez raison.
Directeur de la photographie.
Ouais. À propos de technique, puisqu'on est en plein Festival de Cannes, j'hallucine total aussi sur cette scène qui est racontée. Alors pardon, toi tu es plus doué que moi parce que je me souviens plus qui avait dit quoi.
Il y en a plusieurs, c'est Rachel Kahn et Carrie Jatouré.
Il y a deux scènes, il y en a une à Cannes, une au César.
Une au César, oui, dans les grands lieux du cinéma.
Voilà. Et où le maquillage n'est pas fait pour
chez les donneurs de leçons du vivre ensemble, et on peut les qualifier de bobos de tout ce que l'on veut, mais ces gens-là, entre guillemets, ne sont pas prêts à maquiller une comédienne noire.
Mais alors moi, je me suis aussi très souvent retrouvée dans ce cas-là. On fait la couverture d'un grand magazine cinéma français, et puis on invite plein de jeunes du cinéma, et puis on est 35, 40, et puis j'arrive, comme tout le monde, je me pose sur mon siège pour être maquillée, et puis on me regarde avec un air gêné, en m'expliquant qu'il n'y a pas ma teinte, il n'y a pas ma couleur. Mmh. Et c'est vrai que ça, c'est... Alors, c'est que du maquillage, ok. Il n'y a pas mort d'homme, etc. Mais c'est de l'ordre de la violence symbolique.
Ouais,
parce que quand,
sûr,
à longueur d'année, on se sent rejeté par notre profession, ou on se sent assigné à certains rôles, comme vous le disiez, et que là, c'est vraiment comme la cerise sur le gâteau, et c'est hyper vexatoire. Et surtout, après, il faut apparaître. C'est-à-dire que Carré Jatouré, qui apparaît ensuite sur la scène des Césars, ne se sent pas bien parce qu'on lui a envoyé un signal qui dit une chose, c'est tu n'as pas ta place.
Ouais. Tu n'es pas des nôtres.
C'est fou. Hein. C'est fou. Non, c'est d'une violence inouïe.
Firmine, on peut l'étendre à la société aussi, hein, sur les produits de consommation qui sont accessibles ou pas accessibles à telle ou telle femme. Il y a eu la question des sparadraps qui a été soulevée par Rokhaya Diallo. Oui. Mais il y a aussi la question.
Les collants couleurs chères.
Il ne faut pas être très basané. Il ne faut pas être très basané pour être confronté au problème, déjà. Et puis dans les supermarchés, je ne sais pas. Enfin, voilà, tous les produits sont plutôt marketés, préparés pour une femme blanche.
Quand Firmine Richard, vous lisez tous ces témoignages, on se rend compte qu'elles ne le vivent pas toutes de la même manière. Quel est votre regard sur toute cette génération ?
J'avoue que j'étais très touchée par certains témoignages. Et c'est vrai que ces jeunes sont arrivés là avec beaucoup d'espoir. Quand par exemple, Aïdara dit je suis naïve et c'est un choix. Et elle dit qu'elle a, à l'école primaire, elle était avec ses camarades de toutes les couleurs, de toutes religions.
Ouais.
Et ce n'est que lorsqu'elle a voulu faire du théâtre qu'elle s'est rendue compte qu'elle était noire.
Ouais.
Parce qu'on lui imposait un certain nombre de textes, des auteurs contemporains. Elle n'avait pas le droit à Racine, Corneille. Mais ça m'émeut beaucoup parce que je me dis, mon Dieu, mais quelle misère, quelle souffrance pour ces...
C'est touchant d'avoir une maman aussi qui soit obligée de dire à sa fille ou à son enfant, le conservatoire, ce n'est pas pour les Noirs. La danse classique, ce n'est pas pour les Noirs. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'avec le recul, je suis désolé, je vous dis la vérité.
Oui.
D'un coup, je me suis dit, mais c'est vrai qu'à l'opéra,
on préfère prendre des blackface, entre guillemets, c'est-à-dire peindre des danseuses blanches en noir, plutôt que de prendre des danseuses.
Que de poils noirs. C'est tout ce qui me touche dans tous ces témoignages.
Quand on va en boîte de nuit, quand même...
Tu veux dire quoi ?
Qu'on danse pas bien.
Non, mais pour le théâtre,
c'est la sale blague. Les blancs quand même dansent mal, alors que les noirs dansent tellement bien.
Pour le théâtre,
genre de phrase. Non mais pardon, parce que même ce genre de phrase, elle est raciste.
Moi, je peux vous dire, j'ai un oncle. Il est la preuve vivante que les noirs n'ont pas le rythme dans la peau. Il se reconnaît.
Non, mais je pense aussi à cette, je crois, la une d'un magazine sportif. On est en athlétisme quand Christophe Lemaire avait battu des records et on disait premier blanc à passer sous la barre des temps de seconde et machin. C'est-à-dire qu'on on continue de le...
Sauf qu'on avait peur de le faire.
De coloriser les choses, ce qui est assez gênant. Pour en venir à l'expression « black » ou « quebla » ou « renois » ou ainsi de suite, ça vous énerve, ça ?
Ah oui.
Moi, je dirais pas que... Oui, alors, vas-y,
Firmine. Non, parce que moi, je dis, chaque fois que j'entends black, j'ai envie de dire, est-ce que moi, je t'appelle white? Pourquoi tu m'appelles black? Est-ce que je n'ai pas envie, le mot white ne me sort pas de la bouche. Pourquoi tu as envie de m'appeler black? Ça m'agace au plus haut
point. Et à votre avis, pourquoi? Parce que certains pensent que noir est une insulte?
Oui. Oui. C'est un mot qui raconte la bouche.
Non, ça pique un peu. Ou c'est pour faire américain, ou c'est pour faire branché.
C'est pour faire cool. C'est pour faire cool. C'est-à-dire que c'est un mot américain, on détourne le côté français et tout ce que le mot noir pouvait contenir en termes, enfin c'est chargé d'histoire quand même, et le mot black permettait d'aborder ça de façon un petit peu détendue, et surtout on a inventé d'une certaine façon la coolitude, tout ça ce sont encore des images très construites,
des
le préjugés, noir cool qui rigole, etc. Il est finalement comme le fils ou le petit-fils du tirailleur sénégalais ou de Yabon Banania, dont on disait que c'était un grand enfant, naïf, etc.
C'est le sauvage, le
bon sauvage. Il y a encore du travail. Est-ce que ce livre s'adresse aussi aux médias, aux scénaristes, aux directeurs de casting, même si certains tirent bien, je pense à Cédric Clapiche qui est cité, alors parce qu'autant il n'y a pas de name-dropping...
François Ozon aussi.
Il n'y a pas de nom balancé comme ça pour dire un tel et un tel et un tel se sont mal comportés, mais il y a des non, pour dire aussi ceux qui ont eu, comme François Ozon avec 8 femmes et pour vous, Firmine Richard, comme Cédric Clapiche aussi, il y avait dans le scénario, il y avait dans le script marqué une femme, point, rien d'autre de précisé, pourquoi pas, quelle que soit la couleur de la peau, on prend celle qui est la meilleure comédienne pour jouer le rôle.
Alors pour le film de Clapiche dans lequel je vais jouer, qui est Les Poupées Russes, il était écrit que la fille était noire et c'était d'ailleurs un élément important,
Alors maintenant,
mais ça a été coupé au montage. Ah oui, donc vous parlez de celui avec Carija.
Oui, c'est ça. pour sur les vignes, sur le vin.
Mais ce que je voulais dire, c'est que en fait,
ce qui nous lie.
Voilà, ce qu'on cherche, c'est pas à faire que des rôles qui ne soient pas des rôles de noir. Enfin, moi je suis noire, j'ai aucun problème avec ça. Et surtout,
mais c'est pas
je
un
suis
métier.
D'origine, voilà, malienne, sénégalaise, c'est toute une partie de mon identité. Mais ce qu'on veut, c'est échapper aux stéréotypes et aux clichés, parce qu'il peut y avoir évidemment, il faut le rappeler, hein, des rôles de femmes noires magnifiques.
Mais
on est d'accord. Il faut mettre des mots, hein. Il faut dire les choses.
Non, mais c'est ça. Mais encore une fois, il peut y avoir le rôle d'une avocate, d'une policière, d'une pharmacienne, d'une doctoresse. Point. Et faire le casting en voyant qui est la meilleure dans ce rôle, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa religion ou quelle que soit sa taille.
C'est
ça aussi, c'est important.
Mais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est intéressant. Vous disiez, il n'y a pas besoin d'être noir, on peut être tout simplement un petit peu basané, un petit peu brune, et puis se sentir exclu. Et en fait, ce qui moi m'a intéressé, c'est aussi les réactions de certaines de mes consoeurs, certaines qui sont brunes, qui ont un type méditerranéen, et qui se reconnaissent complètement dans ce qu'on écrit dans le livre.
Et les blondes aussi.
Exactement.
C'est-à-dire qu'une blonde qui est choisie pour un rôle au cinéma parce qu'elle est grande blonde et qu'elle a une poitrine un peu plus opulente que la moyenne, on va quoi ? On l'a cataloguée dans un rôle de jolie idiote. Et voilà, et c'est en ce sens que je trouve que le message est quand même...
Ne soyons pas hypocrites. On parle de cinéma, on parle du métier de l'image, on parle du regard que l'on a aussi, y compris, et on peut parler de la grossophobie ou du racisme fait
toute forme de discrimination,
gros, la vieillophobie grosses, aussi. Ouais, la vieillophobie. Ouais. Oui, parce qu'il y a je crois que c'est Elisabeth Bourgine qui a lancé une pétition sur donner des rôles aux femmes de 50 ans.
De plus de 50 ans, quoi. Voilà, 50 ans, tu ne vaux plus rien, tu disparais dans le cinéma.
Mais on peut pas nier que lorsque quelqu'un écrit le rôle d'un personnage, ou lorsqu'un directeur de casting ou un réalisateur choisit un rôle, il va regarder...
Il va
regarder, et pas uniquement, il a une image en tête, une image de proportion, de...
Oui, on lui demande d'avoir de l'imagination.
De
quoi.
Poitrine ou pas de poitrine, de maigre, de grosse, de jeune, d'âgé. Alors, est-ce qu'on ne tombe pas dans une paranoïa en se disant qu'on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien choisir, parce que
non,
ça sera mal interprété.
En fait, il y a deux choses différentes. Il y a d'une part... l'inspiration, cet espace de liberté totale. Et puis d'autre part, il y a tout ce qui est de l'ordre de la construction sociale. Et parfois, on confond les deux. On a l'impression que notre inspiration, c'est notre liberté, alors qu'en fait, on est complètement conditionné. Et ce qui est intéressant quand on s'intéresse à ces questions-là, c'est que d'un seul coup, on peut démêler les fils et se dire « Ah, mais en fait, moi, j'ai ce réflexe-là. À chaque fois que je veux une meuf qui a l'air un peu débile, qui en même temps est bonne, je vais prendre une blonde. Mais en fait, c'est quelque chose qui m'a été inculqué. Peut-être que je peux aborder les choses différemment et considérer ce physique-là avec un autre prisme. Et je trouve qu'il y a en plus des sources d'inspiration très
fortes. Alors c'est quoi ? C'est une fainéantise de réflexion de la part des directeurs de
casting ? C'est un conditionnement. Mais il y a, par exemple, dans les séries américaines aujourd'hui, dans cette profusion-là, des figures qui apparaissent, qui sont nouvelles. Les séries américaines, de toute façon, elles ont besoin, entre guillemets, du monde entier. Elles doivent s'exporter partout parce que c'est ce qui est rentable.
C'est leur commerce.
Et du coup,
ils
cherchent dans leurs histoires et dans leur casting...
À toucher tout le monde.
À toucher tout le monde. Et du coup, on se rend compte qu'il y a des rôles de femmes d'un certain âge qui sont hyper fort. On se rend compte qu'il y a des rôles de femmes qui parlent anglais avec un accent qui sont super forts et qui sont pas forcément les femmes de ménage. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je pense qu'il y a, ça veut pas dire que toutes les solutions à regarder sont à regarder du côté américain, mais je pense qu'il faut qu'on élargisse un petit peu le regard hors du champ de l'hexagone. Merci.
Cette phrase était beaucoup trop longue.
Mais c'est vrai que et vous avez raison, et on en reparlera tout à l'heure, le lourd poids historique et politique en France par rapport aux colonies est sûrement pour quelque chose aussi.
Imaginaire colonial.
Exactement. Noir n'est pas mon métier, c'est au seuil. Même si vous n'êtes pas concerné par le métier d'actrice, d'acteur en règle générale, ça dit énormément sur notre société, et notre société, c'est nous qui la faisons, c'est nous qui la vivons, chacun à son niveau, donc ça nous touche et ça vous touchera forcément. Et puis il y a des moments qui sont drôles, et puis c'est bien aussi de voir ces filles qui ont une force de caractère, qui n'ont rien lâché, qui ont voulu se battent jusqu'au bout, comme certaines d'ailleurs qui ne voulaient pas spécialement aller dans ce métier. Je pense à vous d'ailleurs, vous avez été débauchée du conseil vous étiez à quel conseil ?
Débauchée, c'est un grand mot.
Ah,
non, c'est vrai que c'est vrai.
Je parlais pas de votre vie privée, hein, je parlais du boulot que vous avez.
Non, mais je veux dire.
Mal partout, hein.
Je veux dire que j'étais effectivement, je travaillais aux Antilles et j'étais de passage en France.
Donc, mais vous travaillez pour un conseil
de passage.
Je travaillais au conseil régional de la Guadeloupe.
Voilà.
Et j'étais juste de passage en France, à Paris, quand j'ai rencontré la directrice de casting de Colline Serrault. Et en fait, c'est pour ça que je dis quelque part, il était écrit que je devais être dans ce milieu.
Vous ne vouliez pas être comédienne?
Parce que, non, pas du tout. Ça se passait entre 2h et 3h du matin dans un restaurant comme cela. Et je m'apprêtais à partir la semaine d'après aux Antilles. Et cette directrice de casting qui vient vers moi, qui me dit « Je cherche l'héroïne du prochain film de Colline Serrault » parce qu'elle m'avait observé depuis que j'étais arrivée dans le restaurant.
Et que vous dansiez sur la table aussi, il faut rappeler quand même. Il était 3h du matin, il était dans un état, il était murgé.
Donc, oui, voilà. Ben
oui,
ça,
bien, c'est ça, la vie.
Elle ne savait plus comment s'appeler.
Pardon. Je n'ai pas compris.
Vous ne saviez plus comment vous appelez.
Si, le prénom, ça.
À tel point que je lui ai dit que, ben, qu'elle se trompait, que je n'étais pas comédienne, quoi. Et bon, elle m'a dit que voilà.
Et elle a changé votre
nom que je n'ai. Oui, voilà. Elle disait que je n'étais peut-être pas comédienne, mais elle pense que je pourrais l'être. Et moi, je lui avais dit à l'époque, écoutez, je récupère très mal d'une nuit blanche. Elle me demandait de venir faire un essai le lendemain. Et je lui ai dit que je récupère très mal d'une nuit blanche. C'est arrivé, je viendrai. Sinon, je l'appellerai. C'est comme ça que ça s'est fait.
Elle n'a pas pris ça. Elle n'a pas pris ça pour une déclaration raciste. Que vous n'aimez pas les nuits blanches. Hein.
N'importe.
Bon, okay, Aïssa Maïga est à l'origine de ce projet, de ce livre manifeste, qui est encore une fois une main tendue et pas un doigt pointé. C'est une main tendue pour dire vivons ensemble, comprenons-nous, apprenons-nous et reflétons la réalité de notre société, parce que c'est vrai que ce n'est pas normal qu'au théâtre, qu'au cinéma, qu'à la télévision, que dans les unes des magazines aussi, tout ne soit pas le reflet d'une vie normale. Noir n'est pas mon métier, c'est au seuil. J'espère, Jean-Philippe Manœuvre, que vous avez compris pourquoi on avait invité Aïssa et Firmin.
Yes, hello, the bio, salut mesdames. Bah, tu sais, Nagui, vu la conversation que j'ai surprise entre GNB, notre rédac' chef, et toi pendant le before de l'émission. Je vois pas comment, je saurais pas pourquoi Aïssa Maïga et Firmin Richard se trouvent dans ce studio. Bon, alors, little flashback. Quand t'as demandé à GNB pourquoi Aïssa et Firmin venaient, il t'a répondu « Pour un livre manifeste, oh mon maître, où 16 comédiennes noires et métisses témoignent des discriminations toujours à l'œuvre dans le cinéma, la télé et le théâtre français, où elles réclament une représentation plus juste de la société française. » Et là, Nagui, t'as craqué, total crash. Ah, là, c'est toi qui parles. Ah, nom d'une tiagouche. Une tiagouche en Égypte, ah bon, c'est une chaussure mi-santiag, mi-babouche. Ah, nom d'une tiagouche. Ferme-la, GNB, j'ai l'impression d'entendre Léa Lacadour. Une représentation plus juste de la société française et patati et patata et féminisme et patata. Mais elle a toujours été juste, cette représentation. Mais vous-même, ô grand obélisque du paf, en tant qu'originaire d'Égypte, vous devriez être sensible à ce point de vue égalitaire. Ah, si t'avais pas le cerveau aussi coulant qu'un coulommier trop avancé, tellement j'ai dû te secouer la tête, tu saurais que la France est la terre promise des Égyptiens. Oh, puissant pharaon des Andes, il est vrai que vos origines exotiques ne vous ont pas empêché de devenir l'animateur préféré des Français, devant Michel Simès, qui lui n'a rien d'exotique, mis à part les maladies parasitaires qu'il rapporte régulièrement de ses vacances sous les tropiques. Ceci dit, tout en étant exceptionnel, ô grand Nagui, vous êtes une exception. Et Claude François, ça c'est Nagui qui reprend. Et Claude François, Richard Anthony, Georges Moustaki, Louis Chédid, Demis Rousseau, Georges Guettari, tous nés en Égypte, ce sont des exceptions peut-être. Oh, mes grands vizirs taratatesques, c'était des chanteurs, pas des comédiens, et il n'y a pas de femme dans votre liste. Et Dalida, c'était pas une femme? Oui, mais elle n'était pas noire et pas actrice. Eh ben tu sauras que les femmes noires et actrices, je m'en tamponne comme de mon premier chasse-mouche. Mais bon, l'émission va commencer, alors passe-moi tes fiches et articule bien dans l'oreillette. Voilà, Aïssa Maïga, Firmin Richard, comment se prépare l'émission, c'est alors good luck.
Il sait même plus quel accent il va prendre. Merci, Alain.
Très, très, très.
Tu l'as honte.
C'est
total confusion.
Je vois. Vos oreilles ont sifflé là quand on vous a dit que Aïssa Maïga et Firmin Richard venaient aujourd'hui.
Et oui, quand je pense à vous, Aïssa et Firmin, je pense à un documentaire tourné en 2016. Pourquoi nous déteste-t-il ? Un documentaire tourné par un certain Lucien Jean-Baptiste. Ouais.
Vous avez fait un peu votre test ADN, tout ça ? Et vous êtes quoi ?
Pas de sang congoïde.
Ni autre. Non. Rien du tout. Et vous êtes de quelle région ? Bretagne ?
Bretagne, mais avec des origines espagnoles. En passant par l'Amérique latine, donc non, non.
Ah oui.
J'ai une grand-mère qui était de nationalité guatémaltèque.
Ah d'accord, donc votre grand-mère, parce que moi, mes grands-parents, moi, ils sont français.
Français, vous voulez dire français de souche.
Français.
C'est Lucien Jean-Baptiste, vous l'avez reconnu face à Henri Desquen de Radio Courtoisie qui,
comment
à l'époque...
Comment il garde son calme, Lucien Jean-Baptiste, c'est fou.
À l'époque, ce monsieur ambitionnait quand même de se présenter à l'élection présidentielle, c'est-à-dire qu'on a quand même échappé au pire. Je vous ai épargné les diatribes sur la sexualité maléfique, c'est encore dans l'imaginaire de la musique congoïde, parce que forcément, quand on écoute cette musique, on est complètement en transe et on devient un autre. Dans ce documentaire-là, c'est Lucien Jean-Baptiste qui s'engage aussi. Firmin, vous avez franchi le pas en vous engageant également en politique. Racontez-nous.
Oui, parce que justement, nous n'étions pas représentés, nous n'étions représentés nulle part, ni à droite, ni à gauche. Et c'est vrai qu'en 2001, j'avais interpellé Bertrand Delanoë là-dessus, et il avait quand même changé. Il m'avait dit, à l'époque, j'avais refusé de faire partie de son comité de soutien, parce que sur les listes, il n'y avait pas de noir.
Ouais.
Et il m'avait dit que ça allait changer. C'est vrai que ça a changé, parce qu'en arrivant en 2001, il a mis en place la délégation de l'Outre-mer, qui était rattachée justement au cabinet du maire. La personne, la première déléguée, ça a été Georges Poulangevin. Mm-hmm. Et en 2008, effectivement, j'ai envoyé un courrier au secrétaire du PS pour lui dire que, quelle que soit la tête de liste, je voulais être dessus en position éligible.
Et vous avez
j'espérais qu'ils me disent non pour que je réagisse. Finalement, j'ai été accepté.
Ils sont pas bêtes. Hein.
Oui, vous avez été élue conseillère déléguée chargée de la culture dans le 19e.
Dans le 19e,
à Paris.
J'étais, oui, élue dans le 19e et donc conseillère de Paris. C'était la première conseillère de Paris antillaise.
Ça, c'était ce qui vous a motivé pour vous engager
la
en politique.
La visibilité. Ouais. Parce qu'effectivement, bon, en règle générale, c'est vrai, nous les Noirs, nous sommes un peu à gauche. On espérait que la gauche mette en place effectivement des maires, que nous soyons plus visibles. Et je discutais avec mes amis socialistes de longue date et je leur disais, mais qu'est-ce que le PS fait pour vous ? Vous êtes là, militants, petits soldats, travailler, mais où sont les Noirs ? Et c'est ceux qui m'avaient un peu révolté, qui m'avaient poussé à faire cette démarche. Mais je ne suis pas du tout politique, mais enfin, bon. C'était un peu une autre.
Parce que finalement, c'est aussi le propos du livre, c'est ce manifeste, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut attendre simplement une réaction des autres. Il faut aussi être soi-même engagé, se montrer et intervenir dans la vie à tous les niveaux et politiquement également. Est-ce qu'on manque beaucoup, vous pensez, en France encore, de représentation de personnes qui sont, j'aime pas trop le terme, moi, discrimination, diversité, de personnes qui sont noires en France?
Nous voulons juste être partout. Nous formons le tissu économique de la France. Vous avez, comme vous l'avez dit, des chefs d'entreprise, moi je connais une grande, gynécologue noire. Nous sommes partout. Pourquoi ne pas nous montrer en politique? Et c'est là que je trouvais, c'était un peu bizarre parce qu'en politique, surtout, je ne comprenais pas la réaction de tous ces gens qui faisait appel à nos votes, qui savait nous flatter dans le sens au moment des votes, et qui ne pensait pas nous mettre effectivement, même donner l'envie aux Noirs de voter.
Alors, parce que moi, il y a deux choses, Firmin. Pardon. Il y a deux choses.
Oui.
Est-ce que vous dites nous sommes partout, mais on nous met pas dans des places visibles ou des places de décideurs. J'entends. Mais est-ce qu'il y a des candidats noirs? Est-ce qu'il y a des personnes qui postulent à des places dans la politique?
C'est généralement ce qu'ils disent et c'est faux. Parce que
non,
moi, je connais.
Je pose la question sans savoir.
Je sais que, par exemple, au PS, j'ai des amis qui, pendant des années, effectivement, faisaient acte de candidature, que ce soit au municipal, à toutes les élections, j'avais des amis qui faisaient acte de candidature.
Donc, comme pour Aïssa Maïga, sur la photo, sur l'affiche d'un film, sur l'affiche d'une élection politique, on a peur, aujourd'hui, de mettre quelqu'un de noir.
Pourquoi? Je n'en sais rien, mais je sais que je connaissais, je discutais avec mes amis. Parce que moi, j'étais pas au PS au départ. Je suis entré au PS, effectivement, en 2007. quand Ségolène Royal est arrivée, disant qu'il va y avoir vivre politiquement une politique autrement faite. Et finalement, mais je n'étais pas militante pour autant, mais je connais beaucoup de camarades qui d'amis qui faisaient acte de candidature et qui n'étaient pas prises.
C'est comme pour, et c'est intéressant donc, que vous parliez de noir avec un E et mon métier parce que c'est intersectionnel entre le genre aussi, c'est ça, c'est qu'on peut dire souvent aux femmes, oui mais elles ne sont pas à responsabilité parce que peut-être elles ne se présentent pas. Si, mais c'est qu'elles ne sont pas élues, elles ne sont pas désignées.
Elles sont pas, voilà,
et c'est la même chose aussi quand on parle de noir. Et vous, Aïssa Maïga, quand je faisais référence à Lucien Jean-Baptiste, c'est un complice de toujours un petit peu. Lucien, vous étiez dans son dernier film, Il a déjà tes yeux notamment. Est-ce que lui dit à ce micro le plus souvent, j'attends pas des propositions. C'est pour ça que je suis devenue réalisateur aussi, parce que je veux créer mon propre domaine de rêve. Est-ce que c'est la seule marche à suivre?
Non, je pense pas que ce soit la seule, mais c'est vrai que dans l'ensemble des témoignages du livre, c'est quelque chose qui ressort énormément. Mm. C'est le fait que on parle de personnes, ce sont des artistes qui ont une créativité, et quand un acteur ne travaille pas, ne travaille jamais, il meurt sur place, quoi. Et certaines actrices sont devenues productrices, réalisatrices, chanteuses, pour Nadège Bossondiagne par exemple. Et ça, c'est quelque chose d'assez puissant, en fait, d'arriver à se renouveler autrement et de façon autonome. Mais moi, je crois qu'il y a aussi des gens dont le seul métier, c'est acteur. Donc, on ne peut pas renvoyer aux gens l'idée qu'il faut qu'ils fassent eux-mêmes, parce que ça voudrait dire que tous les acteurs ont la capacité de devenir et réalisateur, et chanteur, et producteur. Non, c'est faux.
Il y aura un côté débrouillez-vous pour y arriver.
Oui, c'est
tout
ça, démerdez-vous et restez là où vous êtes.
Du coup, on ne réglerait pas de problème.
Il n'y aura pas de problème.
Et pour revenir à ce que disait Fermine par rapport aux partis politiques, c'est vrai que quand on voit les résistances qu'il y a eu et qu'il y a encore par rapport à la place des femmes en politique, c'est vrai que pour les, par exemple, les hommes issus de la diversité, on va dire, ça a été très compliqué. Parce qu'à un certain moment, quand dans le monde politique, on n'a plus pu faire autrement et qu'il a fallu absorber des femmes, on a pris des femmes de la diversité comme ça. On réglait deux problèmes d'un coup et ça permettait d'embaucher moins de monde. Donc c'est vrai que on s'est senti. Je dis « on », et quand je dis « on », c'est pas que les Noirs, ce sont les gens de toutes les diversités.
Utilisés,
manipulés, et puis surtout à l'arrivée floués.
« Noir n'est pas mon métier », c'est au Seuil, ce livre manifeste avec 16 témoignages. C'est très dans l'air du temps, hein, puisque ça finit même en parlant de Black Panther, le succès du film américain, en disant que c'est un carton. Et c'est vrai que c'est l'un des succès les plus...
Preuve que ça ne dégoûte pas le public.
Non, clairement. clairement. Il y en a un qui va découper, c'est Guillermo Guiz. Vas-y, écoute.
Bonjour les amis.
Non.
Ah, vous me connaissez un peu maintenant dans la vie de tous les jours. Je suis plutôt quelqu'un qui va mal. Et je fais des appels à l'aide pourtant dans cette émission, mais il n'y a jamais personne qui me tend la main. À part le père Albert, et uniquement pour placer la dite main dans mes zones calorifères. Sérieux, un jour, on va retrouver mon corps un jour dans une pétromonarchie. Et Nagui comme entrant en disant, je comprends pas. Il y a trois jours encore, je l'interrompais pendant une de ses chroniques. Il avait hyper bien pris. Qui aurait pu deviner? Toutes mes pensées vont à la famille de... Vous dites, il s'appelait comment? Gallardo. Dans quelle émission? Bref, pour paraphraser, l'endocrinologue italien Rollo Cifrepi, on n'a pas tous la chance d'avoir une grosse sérotonine, mais en plus on est en pleine période de déclaration fiscale et ça me casse le moral. Qu'on comprenne bien, moi, j'ai évidemment rien contre les impôts. L'autre jour j'ai regardé France 3, j'ai signé la pétition online oui aux taxes, non à tax, alors que d'habitude les jeux de mots dans les chroniques, ça me donne envie de crever dans une douzaine d'huîtres. Non vraiment, c'est un concept merveilleux. T'es tellement nul, ça. Tellement nul. Non.
c'est la seule que Leïla a compris.
Bref, c'est un concept merveilleux, la contribution collective. Je trouve que c'est un concept merveilleux, vraiment. Quand il y a un pot commun, par exemple, pour un cadeau d'anniversaire, moi, je suis toujours enthousiaste à l'idée de mettre ma part. Regardez la chemise de Daniel Morin, par exemple. On sait tout ce que cotisé pour lui offrir. Et il en est très content. La preuve, il la porte depuis octobre 2016. Ben, c'est vrai, dans l'intérieur de son encolure, il y a 9 nouvelles espèces de mouches. S'il y a bien quelqu'un que personne voulait toucher pendant son sommet à Koh-Lanta, c'est bien notre Daniel. Ouais, vraiment, ça, je vais vous le dire. Non, mais plus je paye d'impôts, moins mieux je me porte. Mais c'est l'acte administratif de remplir ma déclaration d'impôts qui m'oppresse. Vraiment, moi, je crois que je préfère encore l'idée de me faire circoncire à 37-38 ans par un rabbin stagiaire qui, en plus, me gronderait en me disant « Mais enfin, Ernesto, vous avez déjà le soustrait le prépuce. Je ne me dis pas que j'ai pris le RR pour rien. C'est vrai, comme l'ancien secrétaire d'État Thomas Thévenoud, je suis atteint de phobie administrative. Thévenoud a carrément déposé le terme phobie administrative. On s'est croisés dans les bureaux de l'INPI. Moi, j'étais là pour déposer l'expression diction dégueulasse. Il y avait Soprano aussi qui était là pour agression auditive. Enfin, on a sympathisé, mais pour de vrai, la paperasse, les factures et tout, ça m'angoisse. En fait, c'est trop adulte. C'est trop adulte pour moi. Et moi, je suis un enfant dans un corps d'adulte, en fait. Et pourtant, je viens d'un pays où on est généralement sur une tradition inverse. Du coup, là, j'ai trouvé un remède à la phobie administrative. En fait, j'ouvre plus du tout mon courrier. Et ouais, c'est peut-être ma dernière chronique en tant que livre. La semaine prochaine, je vous enverrai un MP3 avec ça. Bonjour les amis. Alors, comme vous le savez, je suis dans une prison de Bruxelles, hein, en train de djihadiste et un fan du groupe Partenaire Particulier. Le moral est bon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais blablabla, van sur Nagui, blablabla, van sur Daniel Morin, blablabla, bide. J'ai déménagé il y a un mois. C'est vrai. Et on va dire que j'ai pas vraiment signalé mon changement d'adresse. Du coup, je reçois pas vraiment mon courrier. Vous savez, ma nouvelle boîte de lettres, elle est vide. Vide. À chaque fois, je passe devant, oh putain, un argument de Luc Ferry, etc. Enfin, il y a un truc de. Je suis un fantôme là pour le moment, pour qu'on me retrouve il faudrait vraiment que la police de Bruxelles écoute France Inter. Lol. Interne et mes plans longues ondes évidemment. Ah oui, à cause des problèmes du budget liés au salaire de Tanguy Pastureau qui dépasse désormais les 130 chroniques par semaine et empêche Radio France d'avoir un vrai rayonnement à l'international. Bravo Tanguy. Non, de toute façon, il n'y a plus rien à attendre du concept de boîte aux lettres en fait. C'est que des mauvaises nouvelles dans les boîtes aux lettres. Oui. Moi j'ai connu l'époque où tu pouvais espérer, je sais pas, moi trouver une espèce de lettre d'amour ou au moins une menace de mort, tu vois. Tu recevais une chauve-souris ou une balle avec le fameux si tu retouches à ma femme, la prochaine est pour toi. Enfin, il y avait un côté convivial, quoi, c'est vrai. Il y avait un côté convivial et c'est fini tout ça. Et franchement, moi je suis pas prêt pour ce monde-là. Nagui, il faut vous préparer pour mon hommage. Allez, bonne émission.
Nagui sur France Inter. La bande originale de d'Aïssa Maïga et de Firmin Richard, je rappelle qu'elle signe avec 14 autres actrices, comédiennes, productrices. Noir n'est pas mon métier aux éditions du Seuil. On vous a demandé ce que vous écoutiez en musique. Aïssa, vous écoutiez en 79.
Bah quoi,
si c'est pas ça, faut le dire tout de suite. Hein.
Ah si, enfin j'écoutais, non, j'ai choisi une musique dont je ne peux pas me souvenir, j'étais beaucoup trop petite. Mais
bah, évidemment, mais qui
mais
marque.
Mais a posteriori, ouais, je me dis que si j'avais eu l'âge d'aller en boîte à ce moment-là, j'aurais dansé là-dessus.
Et on est en 79, votre père décide de quitter le Mali pour s'installer à Paris, en France.
Lui habite déjà en France, il vient me chercher au Sénégal, dans le pays de
et
ma mère.
Et vous avez quoi, 4 ans et demi, je crois, un truc comme ça. Vous êtes toute petite.
Oui.
Vous en souvenez? Votre arrivée.
Ah, je me souviens de l'avion. Et puis ensuite, je me souviens du froid, novembre 79, j'ai vérifié, c'était horrible.
C'est la neige.
Ah ouais, parce que mai 2018, c'est pas mieux.
Non, il faisait grand froid. Hein. J'arrivais de Dakar, c'était le choc thermique assuré.
Et vous parliez wolof.
Oui, je parlais pas français, je parlais wolof.
Votre langue maternelle, c'est le wolof. Ouais, est-ce que cette langue elle revient de temps en temps?
Pas du tout, parce que j'ai plus entendu, j'ai pas grandi avec ma mère, donc voilà, la langue a disparu.
Vous évoquez d'ailleurs votre enfance aussi dans, avec vos peines, vos fêlures et votre sensibilité dans ce livre au Seuil. Quant à vous, Firmin, vous écoutiez.
Ah, vous êtes ému. Et vous pensez que Nagui dédramatiser tout ça, non?
C'est-à-dire que c'est la phase B d'un 45 tours, vous pensez qu'on ne réussirait pas à le trouver? C'était bien mal connaître France Inter.
C'est vrai.
Qu'est-ce que vous avez comme... on voit que vous avez de l'émotion, en tout cas à le réentendre, mais qu'est-ce que vous avez comme image ou comme souvenir lié à cette chanson?
Non, mais quand j'entends cette chanson, elle est tellement d'actualité de toute façon, l'Afrique de demain. Quand on entend les paroles, on se rend compte que, et puis d'abord, j'aime cette voix éraillée.
Mais c'est qui,
de Francis Bébé.
Francis Bébé, formidable.
Francis Bébé, j'aime cette voix-là, déjà, et les paroles sont tellement touchantes. Et on se rend compte que les choses n'évoluent pas tellement. Cette Afrique-là, l'Afrique de demain, qui fait un pas en avant, presque deux en arrière, et ce sont les paroles qui me touchent ici. Et la voix, et puis la mélodie aussi est belle.
Et vous, en 79, Firmin, vous retournez en Guadeloupe.
Oui.
Où vous travaillez comme comptable.
Oui.
Qu'est-ce qui justifie cette envie de revenir ou cette obligation, je ne sais
pas. Ou la comptabilité.
Écoutez, vous savez,
la comptabilité, Flamine.
Oui, non, mais c'est vrai que lorsque les Antillais arrivaient ici dans les années 60, beaucoup par le Bumindom, parce que moi, effectivement, ma mère est arrivée par le Bumindom, j'ai fait l'objet d'un regroupement familial. On venait ici toujours momentanément. On pensait qu'on allait repartir. Tout le monde pensait repartir. Et moi, ça a été ça aussi. Et j'ai travaillé au PTT, à la RATP. Il y a un temps, je me suis dit, mais il n'y a pas de métro aux Antilles. Je veux repartir, il faut que j'aie un métier. Donc, j'ai commencé à apprendre le métier de J'ai d'abord été dactylo-facturière et comptable. Après, j'ai fait un autre stage de comptable d'entreprise. Et je suis repartie me disant, j'ai des choses à faire chez moi. Mm-hmm. Donc, je repartais avec des idées pleines la tête, me disant, je vais me construire chez moi aux Antilles. Donc, je partais pour cela. Donc, je me suis retrouvée comptable. Bon, j'ai eu beaucoup de mal vraiment à m'y intégrer, mais je m'accrochais chez moi quand même. Et puis bon, jusqu'à ce que je me sois retrouvée effectivement à travailler au conseil régional de la Guadeloupe, en revenant de temps en temps en France. Oui.
En 89, Aïssa Maïga, vous écoutiez.
Ah ouais.
Et elle est une fleur à l'époque.
Et oui, dans une comédie musicale. La nuit la plus longue, c'était aux Folies Bergères. Oui. Aïssa, racontez-nous.
En fait, j'étais au collège et j'ai eu une prof fantastique qui s'appelle Daisy Faye et qui nous a dit, bon, le premier jour, je vous mets à tous un 20 sur 20. On ne se connaît pas, je ne vous connais pas. Mais l'école, ça stresse tout le monde, les parents, les élèves, les profs. Moi, je pars du principe que vous êtes intelligent, donc je vous mets un 20. Donc, on était tous super contents. Elle a dit, voilà, maintenant, on peut commencer à travailler. Et elle a développé comme ça une pédagogie incroyable. Et très peu de temps après, elle a arrêté d'enseigner pour devenir metteur en scène parce qu'elle avait écrit ce conte de fées musical en une nuit. Et elle m'a appelée pour jouer le rôle de la petite fleur sur la planète M.
Et c'est vraiment vos débuts.
Ah, oui,
vraiment.
Tout à fait.
Aux Folies Bergères. Et quant à vous, Firmine, Richard oui. Anthony compte beaucoup aussi dans votre bande originale.
Oui.
Ah, c'est encore pleuré. Et en 89, elle décide d'être vraiment comédienne.
Et vous partez à nouveau, cette fois-ci, direction les États-Unis pour suivre des cours dans une école prestigieuse.
À la Lee Strasberg Institute.
Ouais.
En classe.
L'Actor Studio.
Ah ouais, carrément.
L'équivalent, c'est le top du top. L'équivalent, non, bah ouais. Pas vraiment. Parce que c'est d'abord l'Actor Studio et après, mais c'est la méthode de Strasberg qu'on utilise là-bas. Oui, effectivement, quand j'ai fait ce film-là, je n'avais pas compris pourquoi les gens avaient tant aimé le film. Pourquoi les gens me trouvaient du talent, c'est tout cela. Parce que moi, j'avais l'impression d'avoir fait naturellement les choses. Et en fait, c'est en partant là-bas, à la Lee Strasberg Institute, que j'ai compris ce que les gens avaient aimé à moi et ce qu'on m'avait trouvé.
Ouais.
Donc, je suis revenue avec beaucoup plus d'assurance, me disant que voilà, je suis vraiment une comédienne.
Et en sachant maîtriser les émotions, la manière de les exprimer, le jeu, quoi.
Voilà, tout
d'accord.
À fait.
On va revenir à Noir n'est pas mon métier, publié au Seuil, en parlant avec Pascal Blanchard. Soyez le bienvenu, Pascal.
Bonjour.
Aucune vanne dans le fait qu'on ait choisi Blanchard pour venir parler.
Il y a des stéréotypes partout. Il y a des stéréotypes partout.
Aujourd'hui,
personne n'y a pensé, sauf Nagui.
Non, parce qu'il co-signe. Il co-signe un livre, notamment avec Pierre Aski et Farid Abelouad. Mais c'est
Blanchard n'est pas un métier, c'est ça.
Voilà. Mais historien, oui. Et spécialiste, justement, de l'Empire colonial français. On disait que l'on traînait encore aujourd'hui cet esprit colonial français dans des formes de racisme, de non-représentativité de notre société, que ce soit dans les médias ou dans les métiers du spectacle.
Bah, l'histoire laisse des traces. On le sait bien, on est dans un pays, pour savoir qui on est, on regarde la Révolution française, le débat sur la laïcité, les rois de France qui ont fait la France. Pourquoi l'histoire coloniale, l'histoire de l'esclavage, l'histoire de l'immigration n'aurait pas d'effet dans le présent ? Ça on a. Si vous prenez le métro en 1900 et vous le prenez aujourd'hui, c'est passé quelque chose entre les deux. Notre pays est héritier. Il y a très peu de Sénégalais qui migrent en Pologne. Il y a très peu de Maliens.
Le métro, c'est un moyen de transport en commun.
Souterrain.
Je te montrerai les films.
Non, métro, c'est un supermarché, on peut acheter.
Voilà, mais là non plus, tu n'y as pas été.
Et voilà, notre histoire, elle est le fruit de tout ça. Et donc aujourd'hui, il y a à la fois des conséquences qui font que nous avons un pays qui est une plus grande diversité qu'hier, mais en même temps, il y a des effets, des stéréotypes, des principes, des manières de penser encore le regard sur l'autre qui est différent, seulement parce que personne ne nous a appris à vivre ensemble. C'est un très beau slogan, mais personne n'a la recette. Et on est la première génération où on doit vivre l'effet de ce que nos grands-parents, arrière-grands-parents et parents ont connu, où à l'époque, l'égalité n'était pas de fait dans la société.
Mais pourquoi on a l'impression que ça se passerait mieux au Canada? C'est l'exemple donné dans le livre, ou aux États-Unis, ils ont aussi un passé.
Non, parce que les Canadiens, les Canadiens n'ont jamais été une nation. D'abord, ça a été une colonie. Donc, ils ont eu un premier rapport qui a été de prendre la distance avec le colonisateur. Ce qui vous change votre histoire.
Les Américains, c'est une autre histoire.
Ils tuent les Noirs dans la rue.
Exactement. Et en même temps, il y a une classe moyenne américaine qui est beaucoup plus représentée en politique. Ça veut dire que l'égalité n'amène pas forcément la disparition du stéréotype. C'est un processus dont personne ne sait exactement comment un jour on va pouvoir retomber sur nos pieds. Mais j'avais un vieux maître qui disait à la fac, il faut autant de temps à coloniser les imaginaires qu'il faut à les décoloniser. Vous savez, le stéréotype, c'est comme un millefeuille. On pense qu'on est arrivé à la dernière couche et qu'il n'y a que celle-là qui compte. Pas du tout. On n'oublie pas tout ce qui s'est passé avant, à la fois dans sa chair, quand l'autre vous regarde, mais également nous, dans nos inconscients collectifs. C'est une sorte de culture coloniale. Banania, on en parle des fois avec humour, mais il faut se dire que 6 générations de Français l'ont eu au petit déjeuner. Avoir un noir rieur sur sa table, comme d'ailleurs Oncle Ben aux États-Unis. Ça vous fabrique une culture, une manière de penser l'autre. Et avant que tous les Français pensent qu'un noir, un maghrébin, un oriental, un asiatique est un Français comme les autres, ça prend énormément de temps. Donc il faut de temps en temps le répéter, l'expliquer, avoir des livres comme celui-là qui disent « Attention, il y a une situation qui n'est pas normale. Il faut juste la rétablir. » Exactement ce qu'ont fait les femmes dans le combat en disant, vous savez, vous, dans le pays des droits de l'homme, il a fallu 160 ans pour qu'on ait le droit de vote. C'est pas normal. Pendant, les hommes ont trouvé tout à fait normal que les femmes ne votent pas pendant 160 ans, dans le pays des droits de l'homme. Donc ces anachronismes-là, il faut les remettre à l'endroit. En fait, il faut lutter contre les pratiques.
Mais alors, puisque vous êtes historien, est-ce que c'est déjà arrivé quelque part dans un pays? Est-ce que l'on sait quel est le procédé par lequel il faut passer pour arriver à une normalisation de tout ça?
Non. On ne sait pas.
Merci.
On sait qu'il faut parler, il faut l'expliquer,
il faut
le déconstruire.
Mais
oui, parce qu'on est la première génération qui vit les lendemains d'une histoire impériale. En même temps, c'est aussi une histoire de l'immigration. Vous venez de le raconter à l'instant, quand vous êtes arrivé en France, on parle une autre langue, mais c'était pas n'importe quel pays, c'était la France. Vous êtes arrivé en Pologne, votre père n'aurait pas eu le même rapport avec ce pays.
Les Antilles. Plus froid encore.
Voilà. On aurait parlé du Bumidome. Le Bumidome, c'est une histoire incroyable. Et très peu de Français savaient il y a encore 20 ans ce qu'était l'histoire du Bumidome. Beaucoup d'Antilles. France Obda a fait un splendide documentaire en tant que productrice qui a raconté.
On vit toutes les deux,
exactement, mesdames. Vous voyez, cette histoire, elle est en train de s'écrire. Pourquoi? Parce que ceux qui n'avaient pas la parole, il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans, l'ont maintenant, peuvent écrire des livres, font des films, racontent des histoires. Lucien Jean-Baptiste, avec qui nous avons fait une très belle série, d'ailleurs vous êtes tous les trois dedans, la série Artistes de France, répétez aux Français que Dalida, Aznavour, Slimane Azem, c'est notre patrimoine commun. Sylvie Vartan, tu connais très très bien dans la série. Tout ça, c'est notre histoire. Elles sont toutes liées à un moment de diversité, d'immigration, d'histoire ultramarine. En fait, les Français ne le savent pas forcément. Donc, beaucoup ont encore une vision réactive à tout ça. Donc, ça prend du temps. C'est quelque part ce qu'on appelait toujours auprès des enfants, faire de la pédagogie. Et bien, la pédagogie de la diversité, c'est la même chose, il faut le répéter.
Est-ce que le problème est le même que ce soit avec l'Afrique du Nord, la guerre d'Algérie et autres colonies? Il y a la
Chine aussi. C'est des incidents.
C'est ça.
Des événements, pardon.
Je vous rappelle qu'il y a eu des événements au Cameroun, à Madagascar, qui ont fait aussi...
Ne l'écoutez pas. Il fait malheureusement des vannes. Et de l'autre côté, les Noirs. Est-ce que les Noirs, c'est un problème différent ou, comme on le disait tout à l'heure, c'est un problème de reflet, de refléter toutes les facettes de notre société, qu'elles soient noires, arabes, de toutes les religions?
Il y a un point commun. Ils sont non-blancs. Et ils ont fait partie de l'histoire coloniale. Après, il y a des spécificités qui correspondent au discours notamment scientifique, racialiste, culturel qui a été posé. Sur les orientaux, les Kabyles par exemple, c'est pas la même histoire que sur les Vietnamiens, qui n'est pas la même histoire que sur les Antillais, qui n'est pas la même histoire que sur l'Afrique de l'Ouest africain, par exemple, ou l'Afrique centrale. Pourquoi? Parce que chaque destin, chaque récit a eu des imaginaires. Banania n'a existé que pour les populations noires. Et en même temps, l'image de l'arabe voleur n'est pas une image qui renvoie sur les populations noires. Pour autant, il y a aussi une image... Vous savez, quand vous immigrez, que vous venez par exemple du Sénégal, vous êtes à la fois descendant d'immigrés et descendant d'indigènes. C'est une autre histoire que les gens ont du mal des fois à comprendre parce qu'ils disent « Mais c'est loin tout ça, tu me parles de quoi ?» Je te parle juste de l'histoire de mon grand-père. Quand Lilian Thuram des fois explique que sa mère est née 70 ans après la fin de l'abolition de l'esclavage, sur les gens disent « Mais ça fait très très longtemps. » Oui, mais attendez, on en parlait encore dans les familles.
Évidemment.
Si vous allez aux Antilles aujourd'hui, l'esclavage, on sait ce que c'est. En Algérie, on sait ce que c'est que la guerre d'Algérie encore maintenant. C'est pas des histoires si lointaines que ça. La preuve, notre propre histoire de France fait encore débat quand on parle de la Révolution française il y a plus de 200 ans. L'histoire passe dans notre... ce qu'elle veut dire dans notre ADN qui fait notre identité collective.
Vous co-signez avec Pierre Aski et Farid Abdelouad un très bel ouvrage aux éditions de La Martinière qui s'appelle Les années 50. Et si la guerre froide recommençait, on se rend compte que l'histoire, si elle ne se répète pas, bégaye en tout cas. Il y a des gros parallèles entre les Trump, les Poutine d'aujourd'hui et ce qui pouvait se passer dans les années 50. C'est passionnant. Merci d'être venu à ce micro, Pascal Blanchard. Tanguy Bassureau, bonjour.
Bonjour.
Tanguy, Fort Boyard vit une révolution dans tous les sens du terme. cylindre et la révolution.
Oui, parce qu'il renonce à l'épreuve des cylindres, hein, qui consistait pour le téléspectateur lubrique, ce fils de cochon, à mater des poitrines de sous-stars en faisant semblant de s'intéresser aux défis sportifs. Alors le jeu jugé sexiste parce que systématiquement on y envoyait une jeune femme à la peau ferme et jamais Thierry Samitier de nos chers voisins, eh bien n'est plus Nagui.
On en parlera tout à l'heure, ça sera après les infos de midi. Si c'est le cas avec Leïla Kadour-Mounadji, Guillaume Moulin,
bonjour,
Tony Bastureau, Albert,
bonjour,
il y a même Daniel Morin.
Oh, bravo Daniel.
Et nos invités, Pierre Richard et Assam Aïga.
Oui.
Bravo.
Noir n'est pas mon métier, avec une photo où vous êtes toutes, presque on va dire, mais toutes réunies sur la photo, et volontairement vous ne souriez pas.
C'est une photo de Frédéric Stussin,
voilà,
qui est un photographe hyper doué. Et c'est une...
Pourquoi ce non-sourire alors qu'il y a quand même des sourires dans le livre ?
Oui, en fait, on est quand même dans le cadre d'un livre manifeste. Ouais. Et j'ai regardé, je me suis intéressée du coup aux campagnes qui ont été faites pour MeToo notamment, ou pour d'autres mouvements féministes ces derniers temps.
Ça prêtait pas à sourire, oui.
Et c'est vrai que les femmes sont en général très dignes, avec des visages plutôt neutres, et il y a une forme de gravité. Et c'est vrai que le discours qu'on porte, même si on le porte avec vitalité, avec humour, avec dérision parfois, c'est quand même un constat qui est un petit peu grave. Et on avait envie d'être dans cette tonalité-là.
Ça fausserait les choses si vous étiez hilar sur les
couleurs. Non, je ne parlais pas.
Hilar
et
hyper glam.
Il y a un juste milieu.
Oui.
Il y a un juste milieu.
Ah, mais elles ne font pas la gueule pour autant. Elles sont,
voilà,
elles sont
sérieuses. C'est ça. Ouais. Et, mais c'est vrai qu'il y a des phrases ignobles. Je ne sais pas comment les qualifier autrement, qui ont pu être dites. Avec, de toute façon, vous les Noirs, vous ressemblez toutes. Ou alors, t'es tellement intelligente que tu pourrais être blanche.
T'aurais mérité.
Ouais, c'est ça. C'est, en plus, ouais, c'est un trophée. Tu aurais mérité d'être blanche. Est-ce que...
Quand on voit tes cheveux, ça sent le monoeil. Ouais. Enfin, moi, je veux des cheveux comme ça parce que c'est le monoeil. Il faut que ça évoque ça. Ou l'accessoiriste qui amène sur un tournage des objets pour évoquer l'enfance ou le passé du personnage.
Exotique, forcément.
Et forcément, ces trucs exotiques, c'est
des palmiers,
de coco, palmier. Voilà, t'as pas en souvenir une photo normale ni un calepin. Non, t'as forcément un palmier. Quoi. C'est quand même complètement dingue.
Et les trois quarts des romans,
c'est pas fait méchamment.
On n'a pas confiance en l'intelligence des gens. Quoi. Parce que moi, je vois ça en humour aussi. Parfois, on me demande de faire des trucs belges et tout, de dire des mots belges, machin, comme si on parlait comme ça, comme si les Français nous voyaient encore comme ça. Moi, c'est complètement autre chose et c'est pas du tout le même.
Le racisme belge, moi, je suis pour. Autant je suis pour l'ouverture et l'intelligence et la tolérance, autant sur la Belgique, là, quand même, il y a des
choses.
Avec le mal que vous avez fait à la radio, franchement,
non. Et moi, Nagui, il m'a demandé une danse du ventre une fois. Tu vois, il a été hyper déçu.
Ça s'est passé.
Ceci dit, quand on passe des soirées ensemble, je suis rarement déçu. Sans être désobligeant, on pourrait parler de nos invités plutôt. Merci.
C'est toi qui parles de tenue.
Et soirée.
Non, et des phrases notamment sur et vous savez faire l'accent africain.
Ouais.
Oui, mais parce qu'on sait bien que l'Afrique, ce n'est pas un continent, c'est un grand pays. Tout le monde parle la même langue.
Vous savez le faire ou pas?
Et alors,
un colombo de poulet.
Et ce qui est fou, c'est que noir est non seulement n'est pas votre métier, mais noir n'est pas non plus une couleur. C'est-à-dire qu'il y a aussi des réflexions faites sur trop clair pour une noire, pas assez noire pour une noire.
Oui, les
trop...
métis,
c'est fou, ça.
Ou l'inverse. Que ce soit Sonia Roland, par exemple, ou Magagéa Silberfeld, elles en ont beaucoup à raconter là-dessus, parce qu'elles sont évidemment pas assez noires pour jouer les rôles entre guillemets d'africaines.
Et trop bronzées pour faire les rôles de blanches.
Voilà. Et Sonia raconte notamment qu'à un moment dans un film, dans une série, je crois qu'elle doit faire, on cherche le casting des enfants, de ses enfants. On n'a pas encore trouvé le mari. Et donc... ça devient une histoire de dingue, parce qu'on peut pas imaginer
que si on a trouvé le mari, enfin non mais là je raconte hyper mal. Hein.
On cherche la couleur de sa
femme. La première phrase après
quelle manque des chances.
Heureusement qu'on écrit vos textes.
J'ai cru que vous alliez utiliser le mot écrivain fantôme.
Mais en l'occurrence, d'abord c'est Sonia Roland qui le raconte elle-même déjà et en disant mais vous savez si vous ne savez pas de quelle couleur peut être mon enfant, demandez-vous qui serait le père.
Voilà.
Et à ce moment-là, on aura la couleur de l'enfant. Et pour preuve, elle prend son portable et elle montre la photo de son propre enfant, qui est blanc. Et là, les producteurs disent ah ok d'accord, donc c'est possible. Mais là, c'est de la bêtise, c'est de la manque de connaissance, on va dire.
Oui.
Alors moi, j'ai pas envie de dire que c'est de la bêtise parce que je m'interdis toute forme de mépris. Même si parfois c'est tentant.
C'est pas du mépris. De ne pas savoir que la couleur d'un enfant dépend de la couleur des deux parents, pardon, c'est de la culture générale.
C'est vrai que c'est de la culture générale, mais je pense qu'on est en plein tabou en fait. Quand on parle de l'histoire de la couleur de la peau, il y a des choses qui semblent tomber sous le sens, et dès qu'on les interroge, c'est vrai que la plupart des gens sont très mal à l'aise, ils savent plus trop comment faire.
Je pense que le gars en face avait peur de poser la question, est-ce qu'il pourrait être blanc?
Oui.
Parce qu'il, pour ne pas vexer.
Oui.
Pour moi, c'est un manque de connaissances, mais qui amène des maladresses.
Mais c'est vrai que comme disait Pascal Blanchard,
y
a une forme de pédagogie à avoir, il faut que ces questions-là soient pensées et qu'on puisse en parler normalement, de façon décomplexée. Nous, on n'est pas là pour faire culpabiliser les gens, on n'est pas là non plus pour les mépriser. En revanche, c'est vrai que vous disiez c'est une main tendue, mais on tape aussi du poing sur la table.
Parce
que là, maintenant, honnêtement, ça suffit. Je le dis un peu en rigolant, mais je suis très sérieuse. Moi, je suis mère de famille, j'ai des enfants. Et c'est vrai que le livre... ça relève de ma vie privée, monsieur. Et c'est vrai que le livre, il est né aussi de ça. C'est que je me dis que je ne pourrais pas me regarder dans les yeux. Mmh. Si dans 20 ans, mes enfants, étant dans le monde du travail, etc.,
subissent le même
racisme, continuent à subir ça, et que moi, je n'aurais rien fait. C'est impossible. Et vrai que du coup, il y a pour moi une forme quand même d'urgence à penser ces questions-là, et puis à penser surtout des solutions pour que ça avance.
Noir n'est pas mon métier, c'est publié au Seuil. Firmin Richard et Assa Maïga sont venus pour en parler. On continuera d'en parler après Tanguy Pastureau.
Oui.
Révolution à Fort Boyard, c'est fini pour les cylindres.
Oui, adieu les stars lascives, rip les seins. L'été sera glacial, la saison 2018 de Fort Boyard, ça va juste être Olivier Mine engoncé dans le caban dégueu de Captain Igloo. L'épreuve des cylindres, appelée épreuve des rouleaux par les puristes, épreuve des nems par les traiteurs asiatiques, épreuve de moi le matin quand je suis pas au top par les hommes qui se vantent, fut lancée en 93 et était plus basique qu'une réponse de Castaner à la question « Que n'aimez-vous pas chez Emmanuel Macron ?» Alors il y avait de gros rouleaux hein, sur lesquels la star. Alors, star sur Fort Boyard, ça va de Capucine à Nave à Thomas Joubert. Hein, quand la production décroche Tex, ils sortent le champagne. Pour eux, Kinvé, c'est Alain Delon. Eh bien, s'accroche. Les rouleaux se mettent alors à rouler, hein, comme Doc Gynéco, mais en plus rapide. Et la star doit se coller dessus, sur le ventre, dans la position dite du crapaud qui copule. En 93, le passage des cylindres était filmé de dos, parce qu'à cette époque-là, la pudeur régnait. Hein, la seule star hot, c'était Tabata Cash. Et quand vous achetiez Hot Vidéo pour mieux la connaître, son parcours, ses envies, tout ça, bah, c'était tellement prude qu'il mettait des étoiles sur sa poitrine pour la cacher. J'en ai tiré une aversion totale pour l'astronomie. Aujourd'hui encore, quand je vois Hubert Reeves, j'ai envie de lui crier peine à jouir, en fait, faire voir sur NRJ 12, fan de Nabila. Et autre truc insultant pour qui a un QI de plus de 22. Mais dès 94, l'année suivante, la production de Fort Boyard s'est réunie avec l'équipe et ils se sont dit, les gars, les rouleaux, si on filme de face, on voit les boobs de la star. Et ça, pour l'audimat, c'est bon. Si on diffuse juste des images du Bruno Solo en short qui retourne une clepsydre, on va se faire éclater même par Télétoon. Donc ils font un tour de table, Passepartout excité déclare, je cite, enfin du cul. Le père Fouras dit, j'ai pas été aussi chaud depuis la revue de Lynn Renault au Lido en 1927, et c'est voté. Ça fait donc 24 ans que l'été, papa reluque tranquillement des stars de seconde zone frotter leur poitrine à des rouleaux. Hein, ça lui rappelle qu'il faudra emmener la Fiat Tipo au lavage. Tandis que les gosses, autre niveau de lecture, regardent Sébastien Chabal tripoter une migale. Pour la distinguer, la migale, c'est celle qui n'est pas si poilue que ça et qui a 8 pattes. 24 ans que sous couvert d'épreuves sportives, on mate des seins. C'est le même principe que le beach volley féminin. Le sport qui, à la plage, intéresse tous les mecs. Un enfant qui crie « Papa, je me noie », le père de famille, captivé par le beach volley, répond « Tais-toi, Kevin, j'essaye de suivre. Il y a corner, enfin, essaie à 3 points, enfin, je sais pas. Hein, » Puis le gosse hurle « Papa, je suis dans le rouleau !» Et là, le père crie « Quoi ? Le rouleau ? J'arrive !» Hein, pourvu qu'il y ait Agathe Prou en train de se frotter dessus. Voilà, alors on se souviendra ainsi longtemps de Jade Lagardère, la femme du pauvre type à qui des escrocs ont refilé Europe 1, allongée sur le cylindre du fort, de Scheim, de Valérie Beg, nom à jamais gravé au panthéon du téton.
Mais il n'y a jamais eu des hommes qui ont participé à cette épreuve des cylindres ?
Si, mais très peu. Hein. En 2007, les Inrecuptibles, le magazine sur Eddie de Préto, les avait comptés, il y en avait eu 6 contre 98 femmes. Ce à quoi Olivier Mine avait répondu, Fort Boyard, c'est érotisme et culture. Hein, sous-entendu, si vous acceptez de vous taper l'énigme tordue du père Fouras, derrière, il y a des seins. Hein, c'est comme si dans un film avec Clara Morgan, entre deux scènes, il y avait le linguiste Alain Ray, au nom prédestiné pour travailler dans l'UX, en train d'expliquer que le terme pornographie venait du grec porné, prostituée, et graphé, écriture. Seulement, l'époque a changé. Il a fallu le mouvement MeToo pour qu'on réalise que réduire la femme à une paire de seins, c'était aussi absurde que de résumer l'homme à ses testicules. Or, personne n'a envie de voir Cyril Ferroz farcir les cylindres, les bourses sorties du jogging. Ben, le jour où ça arrive, moi j'arrête de payer la redevance et je quitte le pays, puis l'Europe, puis le monde. Alors l'épreuve des rouleaux était donc clairement sexiste, mais selon la production, ce n'est pas la raison de son annulation. Parce que si on arrête de filmer des corps de dames dénudées, le concours Miss France 2019, ce sera juste Jean-Pierre Foucault seul avec une assistante qu'il recouvre à l'aide d'une spatule géante de crème autobronzante. Non, ils disent qu'il faut libérer une des cellules du fort parce qu'il n'y en a pas assez et qu'ils en ont besoin pour installer de nouvelles épreuves. Il y a un immense turnover. Hein, c'est comme à l'hôpital quand on dit à Mamie Ghislaine, 4 minutes après l'installation de sa prothèse de hanche, de rentrer chez elle sur le dos de santé qu'elle, parce que derrière, il y a 12 gonzes en train d'attendre pour mourir dans le seul lit dispo. Alors à noter que l'épreuve dite de l'asile, hein, où on enfilait à un candidat une camisole de force, vêtement que tend Bernard-Henri Lévy à sa femme Arielle quand elle lui parle de sortir un nouvel album, est également annulée. Elle n'aura duré qu'une saison, rien à voir avec les cylindres, épreuve mythique du fort, qui a permis en 25 ans à la phrase « je sais pas qui c'est, mais la nature s'est pas foutue de sa gueule » d'être prononcée 1,5 million de fois. Alors pour compenser, la production a demandé à Passe-Temps de tortiller du boule en criant « je pense à toi, téléspectateur chéri, mon amour hein, », mais ça ne sera rien à côté des cylindres. Les soirées érotisme et culture, c'est fini, ne va plus rester que la culture. Nous allons tous vivre l'existence atroce d'Elisabeth Quint d'Arte. Le summum du sexy dans Fort Boyard, ce sera Olivier Mine qui exhibe sa cheville gauche pour se mettre un pansement parce qu'un tigre l'a griffé. Adieu les seins, c'est affreux.
Merci, Tommy Pastureau.
La bande originale, Lady, sur France Inter.
Mais Bruno solo en short, c'est bien aussi. Ouais. Hein, franchement, il en faut pour tous les goûts. C'est bien, Bruno. On l'embrasse, Bruno. Pour revenir, tiens, au sexisme, puisque évidemment, entre les lignes, c'est ce qu'il fallait comprendre dans le papier de Tanguy Pastureau. Vous avez la double peine, la peine du racisme anti-noir et la peine du sexisme femme avec des... ce que je disais tout à l'heure, je ne sais plus quelle comédienne s'était retrouvée dans un hôtel, escortée heureusement par son fiancé, mais à subir les...
Maïmouna Gay.
Voilà. Les assauts d'un producteur qui pensait, bah c'est simple, hein, puisque elle parle de sexe sur scène et qu'elle en joue et qu'elle est libre pour en parler, c'est qu'elle aime ça. C'est qu'il y a même des phrases qui sont dites, alors pardon pour les parents qui sont avec leurs enfants à côté de leur radio, mais quand on a des fesses comme ça, vous devez être chaude au lit, c'est plus possible ça.
Non, vous avez tout dit. C'est plus possible.
Non, c'est plus possible. C'est plus possible. C'est plus possible. Vous avez demandé à tous les témoignages de rester anonymes sur les producteurs, les acteurs, les directeurs de casting.
Oui, on s'est concerté avec une personne qui est très importante dans cet ouvrage, qui est Charlotte Rotman, qui est journaliste.
Ah oui, que nous avions reçu, elle est brillante, voilà, absolument.
Jour.fr.
Voilà, elle est absolument brillante. Et elle est donc journaliste et aussi éditrice. Pour les éditions du Seuil. Et pour être très honnête, je n'aurais pas engagé ce travail pour cet ouvrage sans elle, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a une éthique journalistique, un respect de l'autre inégalé. Et on s'est posé la question très rapidement de savoir si on allait balancer des noms ou pas. Et pour nous, l'idée, c'est pas de pointer du doigt des individus, des individualités. L'idée, c'est plus de dire, voilà, il y a un problème, c'est systémique. Ça s'incarne, effectivement, dans des situations, dans des gens qui sont des décisionnaires souvent. Mais l'idée, c'est de vraiment parler de cette société dans laquelle on vit à travers le cinéma, à travers le milieu qu'on connaît, et de profiter aussi de la voix que nous avons en tant que comédienne pour dire, voilà, ce qu'on vit dans notre métier, c'est aussi des choses qui se produisent ailleurs dans la société française.
Pour aller plus loin, le fait que le cinéma, la télévision, les médias et la presse ne reflètent pas justement la société peut rendre cette société aigrie, voire violente.
Mais je pense que si on enlève l'espoir aux jeunes, où qu'ils soient, hein, que ça c'est valable en France, sur le continent africain, enfin en Amérique, partout, quand une jeunesse n'a plus d'espoir, effectivement, on court le risque qu'elle se révolte et c'est un mouvement normal. Et puis
qu'elle n'ait plus rien à perdre aussi.
Qu'elle n'ait plus rien à perdre. Et au-delà même de cette question-là d'une menace potentielle, je pense que la France se prive d'une richesse incroyable. On est un petit pays en termes de territoire dans lequel il y a un nombre de religions, de culture, d'ethnie, de différences culturelles, diversité incroyable.
C'est notre richesse.
Et ça, c'est une richesse, surtout face au monde. Et alors, je voulais juste citer Isabelle Giordano, qui dirige Unifrance, qui est l'organisme français de l'exportation du cinéma, français à l'étranger donc. Le cinéma français qui se vend le plus à l'étranger, celui qui voyage le plus, celui qui marche le plus, c'est le cinéma français dans lequel il y a de la diversité. C'est-à-dire que le reste du monde n'a aucun problème avec l'idée que la France soit multicolorelle, multicolorée, multiethnique, tout ce qu'on veut.
Donc on est à la
bourre. Mais on est à la bourre sur la marche du monde. Mais c'est quoi ça?
Noir n'est pas mon métier, c'est au seuil. Un livre intelligent, vous l'avez compris, avec une certaine éthique, ce qui est totalement différent de Daniel Morin.
La patience que j'aime. Cannes, le festival de Cannes. Les films, l'alcool, les soirées, les rapports humains, les tests de grossesse. Oh, du rêve. Mais il y a tous ceux qui travaillent aussi. Eh oui, et qu'est-ce que ça donne au quotidien, le festival de Cannes, pour les gens qui y bossent? Eh bien, c'est beaucoup de boulot, mais dans un cadre et des conditions idylliques. Jetons un œil sur le quotidien cannois de Pierre Lescure, le président du festival. 7h30, ça commence tôt. Petit-déj au Martinez. Bonjour, ça va? Ah, étourdissant le film hier soir. Hein. Un café bien serré, s'il vous plaît. Merci. Tiens, mettez-moi une petite coupe, là, ça va me réveiller les papilles. Donnez-moi deux, ça évitera un deuxième voyage à ma table. 12h30, déjeuner sur la croisette. Bonjour. Hello, how are you? Le film d'hier soir? Je suis encore sur le coup de l'émotion. S'il vous plaît, une petite salade fraîcheur et un vitel, merci. Tiens, mettez-moi un magnum de champagne, j'attends des amis. Vous savez quoi? Mettez-moi en deux, ça vous évitera le voyage. 18h.
C'est tellement ça. Robert, ton micro est ouvert.
18h, la montée des marches. Bonsoir. Hello, nice to see you again. Buonasera. Comment est-ce que la maman? Si. Ça va? Ah, le film hier, quelle leçon, quelle claque. Je suis encore en larmes. S'il vous plaît, une coupe. Oui, donnez-moi un shot de tequila, ça va mettre dans l'ambiance. Vous savez quoi? Donnez-moi la bouteille, ça vous évitera de me chercher sur les marches. 23h. Au bar du Martinez. Bonsoir, good evening, yes. Oh, the movie last night, what a movie. Salut, ça va? Le film? Une tuerie. 2 heures de plan fixe sur un caillou avec pas de chute. J'étais pas sûr, mais au final, quelle leçon de cinéma. J'étais tellement bouleversé, à la fin de la séance, j'ai eu des gaz, c'est pour vous dire. S'il vous plaît, oui, un triple whisky, vous serez gentil. Tiens, mettez-moi un petit rack de coke à côté, ça va m'aider pour faire la soirée. Vous savez quoi? Mettez-moi le gramme, j'ai rendez-vous avec MecBD dans 1 heure. Merci. Bon, tout ça, c'est du boulot. Faut pas croire, hein. Heureusement, enfin, fin de journée, Pierre Lescure peut quand même décompresser. 3h du matin, dans la chambre de la présidente du jury, Kate Blanchett, pour faire le point sur la soirée.
La fille est défoncé à poil Blanchette.
Cannes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le président du festival est impliqué. À demain.
Je rappelle à Pierre Lescure, qui a fait partie de la bande originale, ainsi qu'à tous ceux qui en font partie en ce moment, il n'est pas bon de quitter cette table et d'y laisser Daniel Morin. Hommage aussi à André Manoukian et autres Isabelle Jordan, ou enfin tous ceux qui sont passés, tu les torches à chaque fois. Bon,
j'ai hâte qu'on reçoive Monsieur Labro.
Oui, absolument. Parlons de l'avenir, Aïssa Maïga. Dans quel film on va vous voir bientôt?
Dans un film qui s'appelle The Boy Who Harnessed the Wind.
Wow.
Le garçon qui attrapait le vent, c'est un film de l'acteur qu'on a vu dans 12 Years a Slave.
Chiwetel
et Geoffrey.
Et Geoffrey, d'accord.
Et c'est un film qu'on a tourné au Malawi il y a un peu moins d'un an et j'ai hâte de le voir.
Vous avez tourné également avec Jalil Lesper dans le film de Julien Bram, ou vous allez tourner?
On va tourner à partir de la semaine prochaine.
Quel est votre personnage?
Je suis une psychoboxeuse, c'est-à-dire je suis psychologue et j'utilise la boxe pour aider des gamins perdus à retrouver le bon chemin.
Rôle qu'une blanche aurait pu tenir?
Ah oui. Mais Julien Abraham est très, le réalisateur est très intéressant pour ça. Lui, il est en avance hein, sur beaucoup de gens. Il réfléchit à tout ça avec beaucoup de.
C'est fou. Oui. Encore une fois, j'ai relu cette phrase de dire quand on lit un script ou un texte pour faire une pièce de théâtre ou jouer dans un film, s'il n'est pas précisé la couleur, c'est forcément une blanche. C'est écrit noir, c'est forcément pour nous. D'où l'idée de certaines comédiennes d'aller et de forcer la main dans certains castings et d'ailleurs de réussir en convaincant les casteurs ou les réalisateurs de les prendre dans le rôle.
Oui, ça peut marcher.
Il n'était pas destiné.
Ouais. Mais je pense qu'on pourrait demander aujourd'hui au directeur de casting de proposer pour les rôles où vraiment la question de la couleur de peau ou la question de l'apparence physique n'est pas incontournable, de faire des castings ouverts à tout le monde. C'est ce qu'on fait hein, dans certains pays. Bon, on revient encore aux États-Unis.
Non, mais je pense à Bande de filles, c'était forcément ce que vous vouliez faire, Céline.
Oui, bien sûr.
Mais Sabine Pacora, dans le bouquin, donne un exemple intéressant en disant que quand on cherche une chanteuse, on s'intéresse à sa tessiture.
Oui.
On s'intéresse pas à autre chose. Une chanteuse, c'est la beauté d'une
chanteuse
voix.
Chanteuse lyrique.
Voilà, oui, c'est la beauté d'une voix.
Le problème se pose pas du tout de la même manière.
Firmin Richard, quel projet avez-vous? Où allons-nous vous voir?
Je ne saurais pas vous dire. Parce que j'ai des projets, mais qui ne sont pas finalisés.
Donc pas le droit d'en parler.
Je ne peux pas en parler.
D'accord, lesquels?
Je vois.
Et au théâtre plutôt ou...
Non, cinéma.
Cinéma.
Le cinéma et une série. Mais bon,
on croise
les doigts, voilà.
Très bien. Ouais. Donc si vous voyez bientôt une série avec Firmin Richard, les doigts croisés, c'était ici. Qu'elle en avait parlé la première fois. Noir n'est pas mon métier, c'est au seuil. Et c'est urgent de le lire, de le comprendre. Et c'est un livre utile. Si c'est pas pour nous là maintenant, ça le sera pour nos enfants, nos petits-enfants.
Oui. Ça l'est pour nous maintenant.
Et les générations à venir. Ouais, mais il y a du boulot, ça va pas se faire comme ça en une journée. Mais ça va se faire sur une ou deux générations. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oh, déjà désolé pour le maréchal Ganache qui, je le sais, avec une émission particulièrement douloureuse ce matin à base de vivre ensemble, d'anticolonialisme, de France métissée. Je sens que je vous fais du mal, maréchal. J'arrête tout de suite.
J'ai beaucoup souffert.
Désolé pour tous les amateurs de belles pompes qui nous ont appelé à la pause pour nous demander où trouver des tiabouches, ni Santiago, ni babouches. Alors le plus simple, c'est d'appeler Nagui. On met son numéro de téléphone sur le site de l'émission, évidemment. Et désolé enfin pour Ernesto Pepito Guiz qui non seulement a fait l'erreur définitive de se moquer de mon hygiène, ça il va le comprendre tout à l'heure, mais qui a aussi découvert, après 2 ans d'émission, comment éviter un bide avec sa blague désormais mythique. Oui aux taxes, non à Tex. Ça sera marqué sur ta pierre tombale.
Bien, j'aime bien.
Passez une bonne journée sur Inter. Merci à Sam Aïga.
Merci
Firmin Richard.
Merci
à bientôt. Sylvain Tesson sera notre invité demain et nous parlerons d'Homère et de l'Iliade et d'Ulysse. Et en live, il y aura Mort Chiba pour 3 titres. Je te le dis, c'est comme ça. Et on ne discute
pas.